Gloire à Dieu. Prenons un temps de silence et laissons le Saint-Esprit nous aider à voir clair dans notre propre vie chrétienne, dans notre propre cœur. Dieu parle. Il ne parle jamais en vain. Et ce matin, il a parlé. Et nous voudrions répondre favorablement à ses appels. Son amour est profond à notre égard. Et il l'a dit. Il ne se lasse pas de pardonner pour celui ou celle qui reconnaît ses fautes, qui se repent et qui revient à lui. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les dons spirituels. Merci pour ta douce présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous reviendrons tout à l'heure. On veut de plus en plus, ici en ces lieux, apprendre à être sensible à la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est jamais en vain. Vous croyez que Dieu s'est trompé? Et si je vous disais que ce qui vient d'être dit, exactement ce qui est sur mes notes, Dieu est fidèle. Et j'ai l'impression que plus nous avançons dans le temps, eh bien plus le Seigneur va de plus en plus se manifester à ses enfants parce qu'il désire que nous soyons fin prêts. Alléluia, quand il reviendra. On va prier le Seigneur et puis après on va écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci toutes les fois où tu te manifestes parmi nous. C'est la preuve que tu es vivant. C'est la preuve que le chandelier est là, au milieu de ta maison. Et nous voudrions de plus en plus craindre ton nom. Seigneur, moi le premier, je voudrais, Seigneur, te ressembler. Et Seigneur, Père, être diligent, Seigneur, mon Dieu, dans l'obéissance à ta parole. C'est pour cela que je te demande dès à présent de disposer nos cœurs. Et d'une manière solennelle, que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Et que toute attaque, toute distraction de l'ennemi soit anéantie, soit déjouée au nom de Jésus.
Amen.
Que nos cœurs soient ouverts pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Et je ne vous demande pas si vous avez vos Bibles PIBLE, mais je sais que vous les avez. Et puis, merci Seigneur pour la technique. Nous avons même le moyen de projeter tout ça sur différents écrans. Aujourd'hui, j'aimerais dévoiler, c'est bien le mot, dévoiler quatre compromis que le diable pourrait placer sur notre route. Et vous l'avez compris, quand je parle de compromis, je veux parler tout simplement de toutes ces concessions ou peut-être arrangements douteux, ténébreux, que le diable peut nous proposer afin de nous piéger. Et j'ai donc pour nous relevé quatre compromis que le diable pourrait nous proposer. Pour cela, je vais m'aider d'un récit, vous le connaissez tous, le récit biblique de la sortie, de la délivrance du peuple hébreu, le peuple d'Israël, c'est la même chose, qui est sorti à bras étendus de par la puissance de Dieu du pays d'Égypte pour se diriger vers le pays de Canaan. En effet, on le sait, nous le savons tous, Dieu a envoyé 10 jugements, qu'on appelle d'ailleurs les 10 plaies d'Égypte, et le Seigneur a envoyé un homme, un grand libérateur Moïse, pour demander au roi, Pharaon, de pouvoir laisser aller son peuple, ce qu'il fit, et il libéra donc le peuple de Dieu de sa servitude. Mais voyez-vous, avant cette grande délivrance, il a fallu quand même que Dieu envoie ses 10 jugements, ses 10 plaies. Et on constate, quand on lit le livre d'Exode, que Pharaon, à plusieurs reprises, essaya de retenir le peuple de Dieu, le peuple hébreu, par toutes sortes de compromis. Alors pour nous chrétiens, on le sait, lorsqu'on parle du roi Pharaon, c'est pour nous une très belle image, une image flagrante, du diable, qui encore aujourd'hui essaye par toutes sortes de moyens, par toutes sortes de ruses, essaye de nous piéger, en nous proposant, nous aussi, toute forme de compromis. Et c'est pour ça que je voudrais faire un parallèle. Alors j'aimerais qu'on étudie justement les 4 compromis que Pharaon proposa au peuple d'Israël, afin, en retour, que nous puissions en tirer enseignement, instruction, par rapport au diable et l'Église d'une manière générale. Alors le premier compromis que nous retrouvons, dans le livre d'Exode que le roi donc Pharaon proposa au peuple de Dieu, eh bien, apparaît après que Dieu eut envoyé la quatrième plaie. Quelle est cette quatrième plaie? C'est l'invasion des mouches venimeuses. Vous connaissez ces différentes plaies. Hein. Si juste après cette plaie, Pharaon proposa un premier compromis à Moïse et Aaron qui venaient devant lui, mais par personne interposée au peuple hébreu. Et ce premier compromis, nous le trouvons dans Exode chapitre 8 et le verset 21. Donc une première lecture que je vous propose dans le deuxième livre de la Bible, Exode chapitre 8 et le verset 21, c'est extraordinaire, nous avons la technique qui vient bien en renfort. Et nous lisons ensemble, Exode chapitre 8, verset 21, « Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Autrement dit, Pharaon, écoute la demande de Moïse et Pharaon, « Ah, vous voulez eh bien, que le peuple aille adorer son Dieu ? » Il le fera. Par contre, il restera dans le pays d'Égypte. Et vous comprenez eh bien, que, à l'instant même, Moïse refusa, déclina eh bien, cette proposition, ce compromis. Et pour cause, Dieu avait donné un message bien précis eh bien, à Moïse à l'adresse du grand roi Pharaon, qui, il faut le rappeler, à l'époque était considéré comme un demi-dieu. Mais Dieu avait eh bien, délivré un message pour Pharaon, de la part de Moïse. Exode chapitre 6, versets 10 et 11. On va le lire. Exode chapitre 6, versets 10 et 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 11, « Va parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de mon pays. » Alors là, on se trouve devant un dilemme. D'un côté, le roi Pharaon dit, « Bon, ben, vous pouvez aller adorer, mais par contre, vous restez dans le pays d'Égypte. Le pays de la servitude. Vous restez dans ce contexte-là pour l'adorer. » Tandis que Dieu, eh bien, de son côté, par la bouche de Moïse, demande à Pharaon de pouvoir laisser aller son peuple hors de son pays. Et il y a pour nous, ce matin, déjà un premier enseignement. Et finalement, eh bien, quelque part, un premier compromis par lequel le diable trompe encore aujourd'hui bon nombre de chrétiens. Et je voudrais prendre le temps de l'expliquer. C'est comme si quelque part le diable, il fallait ramener cette histoire à aujourd'hui, c'est comme si quelque part le diable aujourd'hui nous proposait le compromis suivant. Quel est-il? C'est le suivant. Soyez des chrétiens, mais sans quitter votre ancienne vie pécheresse. Vous comprenez le parallèle qu'on peut faire? Et bon nombre de chrétiens aujourd'hui se trompent par de faux raisonnements, pensant qu'ils peuvent continuer à suivre Dieu tout en gardant eh bien, toutes sortes de mauvaises choses dans leur cœur. Et ça répond à ce que nous avons entendu ce matin. Dieu qui est attristé parce que Dieu ne veut pas que nous puissions lui offrir la moitié de notre cœur, même pas 99% de notre cœur. Il veut que nous nous offrons littéralement eh bien, sur son autel entièrement à lui. C'est comme si le diable nous disait aussi, tu n'as pas besoin d'abandonner ton péché pour être chrétien. Reste comme tu es. Ce qui compte, c'est d'être sincère. Mais voyez-vous, on peut être sincèrement dans l'erreur. Dieu n'est qu'amour. T'inquiète pas. Il ne regarde pas ça. C'est pas important. Toutes les religions sont bonnes. Et puis pour appuyer tout ça, on dit tous les chemins mènent à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu.
Amen.
Et Jésus s'est déjà présenté comme ce chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le diable trompe un bon nombre de croyants en leur faisant croire qu'ils peuvent, d'un côté, appartenir et même servir Dieu, tout en gardant toutes sortes de mauvaises choses, tout en restant dans le pays, dans la ville du péché. Et c'est là où on se fourvoie. Parce que la Bible est claire. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul s'adresse à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée, et dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, conjonction de coordination, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Frères et sœurs, quand on lit la parole de Dieu, on découvre que le Dieu qu'on sait est un Dieu de lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Comment comprendrons-nous eh bien que on ne pourra pas entrer dans le ciel s'il y a la moindre parcelle de péché dans nos vies, dans nos cœurs.
Oh, mais je vois que ce n'est qu'un petit mensonge. Mais oui.
Vous connaissez cette expression, celui qui vole un œuf, vole un bœuf. Un péché, c'est un péché. Il peut avoir, c'est vrai, des grands ou des petits péchés, mais un péché t'empêchera toujours de pouvoir un lien entrer dans le royaume des cieux. Comment pouvons-nous prétendre appartenir au Dieu de vérité tout en continuant à mentir? Alors on peut mentir aux autres, mais on ne pourra jamais tromper Dieu. C'est pour ça qu'il est important de gagner du temps et puis être littéralement vrai devant Dieu. Et se laisser découvrir, se laisser travailler par lui. Une fois, je suis au sortir de l'église et je vois quelques personnes qui rasent parce que leur conscience n'est pas tranquille et ils ne veulent pas cette confrontation avec la vérité. Quelquefois, on rase les murs avec le Seigneur. Il nous cherche dans son amour. Il est plein de bonté. Il veut nous réveiller. Si la parole nous entend, il y a un problème. Mais si elle nous percute ce matin, si elle nous donne à prendre conscience eh bien de notre état, alors on est heureux. Parce que la parole de Dieu peut encore trouver le chemin de nos cœurs. Comment pouvons-nous prétendre appartenir au Dieu Saint tout en vivant dans l'adultère? Tout en vivant dans la fornication? Certains pourraient dire, mais c'est quoi la fornication? La fornication consiste à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et on peut penser eh bien, qu'on va continuer à lever les mains, louer le Seigneur, et en même temps, eh bien, coucher à droite, à gauche. Mais c'est juste impossible. Amen. On dit souvent, le Dieu est trois fois saint. Non, il est saint tout court. Et constamment, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, des anges, des êtres célestes qui ont trois paires d'ailes, une pour cacher leur face, une pour voler et une autre pour cacher leurs pieds, constamment disent « Saint, 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 l'Éternel, le Dieu des armées qui était, qui est, qui vient, jour après jour, jour et nuit devant le Seigneur. » On comprend pourquoi, autre part, il nous est dit qu'on ne peut pas voir Dieu vivre. C'est juste impossible. Si le Seigneur venait apparaître, on tombe tous par terre, moi le premier. Voilà la gloire de Dieu. Le même bonhomme qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine du Seigneur, c'est le même qui, lorsqu'il reçoit les visions sur l'île de Patmos, tombe littéralement. Il n'avait que cela à faire. Parce que là, il voyait maintenant le Seigneur couronné de gloire et d'honneur, lui annoncer eh bien, ce qui allait être l'avenir. Comment pouvons-nous prétendre appartenir au Dieu d'amour tout en ayant de la haine dans notre cœur pour le prochain? Quel qu'il soit, c'est juste possible. C'est sûr et certain. Le véritable chrétien, né nouveau, ne tombe pas dans ce premier compromis qui, pour moi, à mes yeux, est plus que grotesque et grossier. Non, le vrai chrétien, né nouveau, a pris la décision de quitter définitivement la ville du péché. Mon frère, ma soeur, si ce matin tu es sûr dans ton cœur que tu as quitté une fois pour toutes la ville du péché, tu es heureux ce matin. Amen. Tu as brisé tous les ponts qui te donneraient peut-être la possibilité de revenir en arrière parce que tu regardes en avant et tu cours dans la carrière qui t'est ouverte, que c'est cette carrière que le Seigneur lui-même t'ouvre. Un texte que j'aime beaucoup dans le livre de 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 et 18. Il nous est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et regardez ce qu'il est dit au verset 17 qui attire toute notre attention. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et alors je vous accueillerai, aidez-moi. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Jésus désire ce matin que nous soyons des hommes et des femmes qui sont radicaux, qui sont eh bien déterminés et qui sont prêts à pouvoir sortir. Vous avez vu les verbes? Ils sont sortis. Le Seigneur leur demande de sortir du milieu d'eux. Il faut sortir du pays de la servitude, sortir du pays d'Égypte, image eh bien vue de la ville du péché, du pays du péché, pour enfin, tout comme le peuple hébreu, marcher dans ce monde qui est semblable à un désert, jusqu'à arriver aux portes du pays promis.
le pays promis, le pays de Canaan, spirituel, c'est cette cité céleste que Dieu a préparée pour nous. Alléluia, dans son ciel de gloire. Amen ou pas, amen, frères et sœurs.
Rappelons-nous que la femme de Lot, qui connaît la femme de Lot? Cette femme qui, à un moment donné, a effectivement, physiquement quitté une ville. Et quelle ville? La ville de Sodome et Gomorre. Elle l'a quittée physiquement. Mais soyons honnêtes, les villes de Sodome et Gomorre, où il y avait toutes sortes de perversités dans cette ville, jamais n'a quitté le cœur de cette femme. Et c'est là toute la nuance. On peut concrètement, physiquement, poser des actes, mais si notre cœur n'est pas sincère, si notre conscience est encore atteinte, souillée, si eh bien, on n'a pas le Saint-Esprit qui nous transforme et nous fait vivre une rêve repentante, c'est une question de temps, ça nous rattrapera toujours. Et c'est ce qui s'est passé alors que cette femme eh bien, prenait le chemin du salut. Elle s'est retournée, vous savez ce qui s'est passé, de manière extraordinaire, miraculeuse, elle s'est transformée en statue de sel. Frères et sœurs, aujourd'hui, trop de chrétiens veulent suivre Dieu tout en gardant le péché dans leur cœur. C'est aujourd'hui le nouvel évangile qu'on propose aux gens. Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde au cœur, etc. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nos vies. Réalisons au contraire ce que nous avons voulu faire au travers des emblèmes du pain et du vin. Réalisons au contraire tout ce que Jésus-Christ a enduré pour nous, pour que nous soyons délivrés du pays du péché, que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché. Regardez ce texte dans Galates chapitre 1, verset 3 et 4. Galates chapitre 1, verset 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent. Il fallait cela. Nous arracher littéralement du présent siècle. Tellement le péché nous avait contaminés. On parle de contamination aujourd'hui. Et ce n'était pas un masque, eh bien, qu'elle nous empêchait d'être atteints. La Bible dit que tous les hommes sont des pécheurs. Nous étions contaminés, frères et sœurs. Et il a fallu la puissance du sang du Fils du Dieu vivant et vrai pour nous arracher littéralement du présent siècle mauvais. Amen. Selon la volonté de notre Dieu et Père, Jésus a offert sa vie. Personne d'autre l'a fait. C'est pour ça que Jésus est présenté pour nous comme notre héros. On n'en connaît pas d'autre. Personne ne peut lui égaler. Vous savez qu'il y a dans certains pays des personnes qui veulent ressembler au Seigneur et quand arrive la paix de la Pâque, ils se laissent crucifier. Mais jamais ils ne pourront égaler ce que Jésus seul a pu accomplir. D'ailleurs, il l'a dit, tetelesté, tout est accompli. Et son sang coulé pour que nous soyons une fois pour toutes libres. Alors toi qui es présent en ce lieu, mon frère, ma soeur, peut-être toi, cher ami, qui viendrais pour les premières fois, es-tu certain d'avoir quitté une fois pour toutes le royaume des ténèbres? Es-tu sûr maintenant, à bien que tu évolues dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire Jésus? Si ce n'est pas le cas, tu peux aujourd'hui même prendre la décision de te détourner de tes péchés. Amen. C'est ce qu'on a entendu dans le ton spirituel. Le Seigneur nous montre là où ça fait mal, mais l'amour de Dieu nous donne aussi la solution, toujours la solution. Et la solution, ce n'est pas pour demain ou le surlendemain. Aujourd'hui même, Dieu est capable de te réhabiliter. Aujourd'hui même, Dieu est capable de te donner à sortir une fois pour toutes du pays du péché afin que tu puisses évoluer dans cette carrière qui t'est ouverte devant toi. Que Dieu soit béni. Voilà un premier compromis. Mais nous en trouvons un très rapidement, un autre, un deuxième compromis que le roi Pharaon proposa au peuple de Dieu. Effectivement, voyant que ce premier compromis n'a pas fait mouche aux oreilles, au cœur, eh bien, de Moïse. Alors, dans la foulée, Pharaon propose un deuxième compromis qu'on retrouve quelques versets plus bas. Exode chapitre 8 et le verset 24. On lit ensemble. Exode chapitre 8, verset 24. Et nous lisons. Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu les sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. » Et puis il rajoute, je ne sais pas si c'est avec hypocrisie, priez pour moi. On le sait, cet homme, eh bien, c'est plus que jamais endurci. D'ailleurs, au départ, il disait, mais qui est Dieu pour que je m'humilie, pour que j'accepte votre demande? Et le voilà en train de dire, priez, priez pour moi. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Mais en tout cas, toujours est-il, il va dire, là, il va faire une autre proposition. Il a dit, bon, d'accord, vous voulez sortir du pays. Par contre, ne vous éloignez pas trop. Je ne sais pas ce que ça peut vous dire, ce que ça peut nous dire ce matin.
Eh bien, je vais vous le dire tout simplement. Il y a là aussi, bien sûr, un deuxième compromis que le diable pourrait placer devant nos yeux. C'est-à-dire le fait de nous dire finalement, tu es chrétien, c'est bien, mais ne va pas trop loin. Tu comprends? Ne va pas trop loin dans la pratique de ta foi. Comme si le diable nous disait, mais écoute, tu as la foi, tant mieux pour toi. Mais de grâce, n'en fais pas trop quand même. Ne sois pas trop passionné. En parlant de passion, j'ai vu dernièrement, il y a quelques jours de cela, dans un journal télévisé, un homme qui a été présenté comme quelqu'un qui était passionné pour les planches de skateboard. Je ne sais pas si d'autres l'ont vu, c'est lors d'un journal télévisé il y a quelques jours de cela. Et à un moment donné, il propose à bien la caméra d'entrer dans une pièce où il y avait plein de planches de skateboard. Et il explique que c'est sa passion. Il se dépense corps et âme pour acheter quelquefois des planches de skateboard très chères. On se dit, mais c'est fou. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de pouvoir collectionner des planches de skateboard. Il y a peut-être d'autres choses à collectionner. Mais quand la passion est là, quand vous aimez quelque chose, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire? Je dis quelque part dans ce monde, il y a tellement de personnes qui sont passionnées. Tellement de personnes qui sont là avec quelque chose qui les tient à cœur, une passion qu'ils expriment en dépensant corps et âme, peut-être même de l'argent pour satisfaire leur passion. Et je me pose la question avec chacun d'entre nous, combien à plus forte raison, nous enfants de Dieu, ne devrions-nous pas aller beaucoup plus loin dans notre passion pour Jésus, pour celui qui est mort et qui est ressuscité, pour celui qui nous a donné à vivre un autre destin éternel. Nous étions destinés à la perdition éternelle, et Dieu, dans son amour, par l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, nous a orientés vers notre destinée éternelle. Quelqu'un l'a dit dans sa prière, nous avons une merveilleuse maison là-haut dans le ciel de gloire. Avant d'être pasteur, j'étais dans le milieu du bâtiment, je concevais des belles bâtisses, assisté par ordinateur. Il y a de belles maisons, mais ce ne sera jamais égal à ce qui nous attend là-haut. Des choses qui nous dépassent nous attendent là-haut. Et tout ça, c'est l'expression même de l'amour infini. Je crois qu'il faudra toute l'éternité pour découvrir cet amour. Ne devrions-nous pas être passionnés pour celui qui est devenu notre sauveur et notre maître? Quand je lis, je vois des hommes et des femmes passionnés. J'en ai juste retenu deux. Et puis j'ai voulu choisir deux femmes. La première, c'est une pauvre femme qui, à un moment donné, comme c'était l'habitude et la coutume, elle s'est approchée devant le tronc du temple. Et la Bible nous dit qu'elle déposa là dessous. Sauf que ce jour-là, il y avait Jésus qui était là. Et ces dessous ont provoqué, certainement, c'est pas écrit dans le texte, mais je le suppose, peut-être du jugement, ou peut-être même de la moquerie de la part de ceux qui avaient donné des grosses sommes. Et c'est alors que Jésus révèle ce qui s'est passé à cet instant. Et je vous le dis, ce jour-là, cette femme a voulu aller beaucoup plus loin dans son amour, dans sa reconnaissance pour Dieu. Parce que Jésus va révéler ce que aucun œil humain ne pouvait voir, c'est que cette femme, ce jour-là, cet instant précis, avait donné de son nécessaire. Mieux que cela, elle avait donné tout ce qui était sa propre subsistance. Autrement dit, avec ses dessous, elle pensait s'acheter de la nourriture, mais elle a choisi de pouvoir honorer son Dieu. Ce n'est pas de la passion, ça, frères et sœurs. Que sommes-nous capables de faire? Je vois dans le monde des gens qui sont capables de monter, gravir des monts Everest et compagnie, mais que sommes-nous capables de faire pour le Seigneur Jésus? C'est quoi ta passion? Qu'est-ce que tu aimes? Et si tu aimes Jésus, peut-être que le Seigneur te dit, il faut que tu ailles plus loin, mon fils, ma fille. C'est bien ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais peut-être que j'attends plus de toi. Je pense encore à cette autre femme. On ne connaît pas son âge. Je suppose qu'elle est peut-être un peu plus jeune que cette première pauvre femme, pauvre veuve, dont j'ai fait mention. Celle-ci, elle vient, elle rentre dans le lieu où se trouve le Seigneur Jésus qui est accablé, et elle vient, non pas les mains vides, elle vient avec un vase rempli d'un parfum très cher. Elle rompt ce vase, elle le répand sur la tête du Seigneur Jésus. Et encore ce geste, va provoquer de l'indignation chez les disciples. Il dit, oh, parce que dans leur esprit, cette femme a été trop loin. Non, trop loin. Au contraire, on aurait dû garder, eh bien, ce parfum et pourquoi pas le revendre pour après, eh bien, subvenir aux besoins des pauvres. Et c'est là où Jésus a voulu honorer le geste de cette femme. Et il va d'ailleurs même faire le reproche aux disciples, mais pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Et Jésus révèle que même cette femme, par son geste, a eu un geste prophétique. Elle annonçait déjà l'embaumement, l'ensevelissement du corps du Seigneur Jésus. Et il va même plus loin. Il va dire, sachez que partout où l'évangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait aujourd'hui, eh bien ce sera également proclamé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au 21e siècle, je vous parle encore du geste de cette femme, qui à un moment donné a voulu aller beaucoup plus loin dans son amour, dans sa passion pour Jésus. Et nous, frères et sœurs, jusqu'où sommes-nous capables d'aller pour Jésus? Chacun doit parler pour sa part. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour Jésus? Je parle de mon père parce qu'il n'est plus. Et je me rappelle quand on était tout jeune. Mes sept frères et moi-même, très rapidement, il fallait se lever à peut-être deux heures avant pour habiller tout le monde, peut-être même plus, pour se préparer pour partir. Et on faisait plusieurs kilomètres. On était à l'époque, on habitait en Savigny-le-Temple dans le 77, et nous, nos réunions, c'était au cœur même de Paris. Et ma mère avait déjà préparé eh bien, les sandwichs pour rester entre midi et deux, pour vivre le culte du matin, et puis aussi profiter de les réunions d'évangélisation de l'après-midi. De la passion. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour celui qu'on reconnaît comme notre Sauveur et notre Seigneur? Quelquefois, on arrivait même avant l'heure, je vous l'ai déjà dit dernièrement. Des heures avant, ma mère disait, mais voilà, on en est arrivé là, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? La passion, de la passion pour Jésus. Jésus, je crois, attend que nous allions le plus loin possible sur le chemin de l'amour divin. Vous savez, quand Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5 et le verset 48, vous connaissez tous ce passage, qui d'ailleurs reste encore un sujet de réflexion, comment être parfait ici-bas cette terre. Vous l'avez compris, on ne peut pas arriver à cette perfection. Par contre, on peut tendre à cette perfection. Et quand Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il nous demande de tendre à cette perfection qui consiste à aimer comme Dieu a aimé. Nous allons tendre à la perfection quand nous allons ressembler Jésus dans son caractère, plus que caractère, dans ce qui est son essence même, c'est-à-dire le fait qu'il est amour. On dit souvent que l'amour trouve son essence, sa source en Dieu même, parce que Dieu est amour. Et d'ailleurs, quand on lit Matthieu chapitre 5, même les versets au-dessus du verset 48 qui termine le chapitre 5, nous découvrons que le Seigneur nous invite même à aimer, eh bien, nos ennemis, à pouvoir prier pour eux, à pouvoir les bénir. Voilà la dimension. Et d'ailleurs, Jésus va dire, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire quand vous aimez ceux qui vous aiment? Vous n'êtes pas plus que les publicains? Mais on entre dans l'extraordinaire de l'amour, on rentre dans cet amour parfait, lorsqu'on va à contre-courant de tout raisonnement, même humain, et on choisit de pouvoir aimer ce qui n'est pas aimable. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Rappelons-nous que Jésus donc a prononcé cette parole alors qu'il était en train de nous encourager à pouvoir aimer. Alors ne nous laissons pas piéger par ce deuxième compromis que nous venons de voir ensemble, compromis qui peut-être viserait à nous empêcher d'aller loin dans la pratique de notre foi chrétienne. Par la grâce de Dieu, surpassons-nous, faisons des progrès. J'ai à cœur aussi qu'on puisse bien prochainement parler de la croissance spirituelle. Quand je viens au Seigneur, quand je prends l'engagement avec lui, quand je me baptise, eh bien, il est question après de pouvoir progresser, d'avancer. On ne peut pas rester bébé constamment. Il faut qu'on arrive à cette maturité, il faut qu'on tende vers cette perfection, jusqu'au moment où Jésus viendra eh bien, nous chercher sur les nuées. Et là, nous atteindrons le paroxysme de la perfection pour demeurer éternellement dans la présence de Dieu. Amen et amen. Un troisième compromis, vous voulez le découvrir? Le troisième compromis que le roi Pharaon proposa au peuple de Dieu apparaît, ou en tout cas on le retrouve, avant la manifestation de la huitième plaie, excusez-moi. Huitième plaie que Dieu envoya sur l'Égypte et qui consiste à, a bien envoyé toutes sortes de sauterelles qui vont ravager toutes les végétations sur tout le pays d'Égypte. Et on lit ensemble Exode chapitre 10, versets 10 et 11. Exode chapitre 10, versets 10 et 11. Troisième compromis que le roi Pharaon proposa au peuple de Dieu. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Vous savez, je ne comprends pas comment cet homme qui est incrédule, qui ne croit pas en Dieu, qui ne reconnaît pas la suprématie de Dieu, arrive à pouvoir utiliser des paroles et prendre le nom de Dieu en vain comme cela. Il dit, prenez garde, car le malheur est devant vous. Et puis, subitement, verset 11, on voit cet homme qui est presque versatile, et va dire, non, allez-vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Pharaon semble accepter, eh bien, que, effectivement, le peuple hébreu puisse partir. Mais soudainement, il se rétracte et décide, comme ça, à la dernière minute, un coup de tête, au final, que seuls les adultes peuvent partir. Par contre, lui, garde les enfants. Et là aussi, c'est pas possible. Là aussi, c'est un compromis dans lequel le diable aimerait que nous puissions tomber. Pensez quelque part que eh bien, le diable nous donnerait à continuer avec le Seigneur et retenir nos enfants. C'est juste impossible, frères et sœurs. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. Et c'est comme si quelque part le diable nous propose l'arrangement ou la concession douteuse suivante. Sois chrétien pour toi-même, mais de grâce, n'en parle pas aux membres de ta famille. Ça ne les regarde pas. Et puis après tout, le salut est personnel. Avez-vous déjà entendu ça quelque part? Quelquefois, pour se dédouaner de la grande mission que le Seigneur a confiée à son Église. Quand on a demandé à Pierre de se taire, de ne pas parler de la part de Jésus, Pierre a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Voyez-vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Quand on l'a interdit de parler de Jésus, dès qu'ils sont sortis devant ce tribunal humain, plus que jamais, avec une grande assurance, plus que jamais, ils ont parlé de Jésus. Et nous avons besoin, nous aussi, de ne pas tomber dans ce piège, de dire, finalement, voilà, j'ai ma foi pour moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, regardez-les, on les juge, on les... Non, on sera redevable du sang de tous ceux qui sont à notre contact. C'est pas possible. Bien que j'évolue avec ce que je reconnais comme mes amis et que je n'ai pas pu discerner bien le moment où la porte était entrouverte, où le Saint-Esprit de l'intérieur m'avait demandé d'ouvrir la bouche et de parler de Jésus. Quelquefois, c'est la timidité. Quelquefois, c'est la peur du rejet. Mais qu'est-ce que nous ne sommes pas capables de faire lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit? Lorsque le Saint-Esprit nous donne cette assurance pour parler de lui en toutes circonstances, favorables ou non. Amen, frères et sœurs. Amen. Sachons sans l'ombre d'un doute que le désir de Dieu, c'est que nous soyons, c'est vrai, nous sauvés, mais nous, ainsi que nos enfants, amen, nos petits-enfants, nous et nos familles. Amen. C'est pas pour rien que le Seigneur, eh bien, Dieu lui-même, dès l'Ancien Testament, a dit, a promis à Abraham, il a dit eh bien, que la postérité d'Abraham, alléluia, connaîtra aussi la bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il ne visait pas forcément Abraham lui-même, il visait eh bien, la personne qui allait sortir de la lignée, la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus-Christ incarné en chair. Et au travers de cela, eh bien, le Seigneur veut bénir toutes nos familles. Amen. Mon frère, ma soeur, ne pars pas seul au paradis. Amen. Mais pense à ton épouse, pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants. Et ça vaut le coup de combattre jusqu'au bout. Et je le vois, le Seigneur, il est plus que nous-mêmes intéressés à ce que toute notre famille soit sauvée. Quand je vois, par exemple, que Dieu ordonna à Noé de construire une arche pour qu'il soit sauvé, lui et sa famille. On a parlé tout à l'heure de la femme de Lot, mais le projet de Dieu était que toute la famille de Lot soit sauvée. Et effectivement, eh bien, Lot, ses filles et son épouse aussi sont en tout cas sortis eh bien, de la ville de Sodome et de Gomorre. Que dire également de Rahab ? Qui fut sauvée, elle et sa famille, pourtant c'était une étrangère. Parce que Dieu avait décidé de détruire toute la ville de Jéricho. Mais Dieu avait en vue de sauver eh bien, cette famille, d'ailleurs qui est entrée dans la descendance, alléluia, du Seigneur Jésus. Et que dire également dans le Nouveau Testament quand je vois un homme, Corneille. Corneille n'avait rien mais bien d'un juif, mais un homme qui était aussi attiré, passionné par Jésus. Il avait juste besoin d'entendre le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile qui est venu apporter un jour Pierre. Et cet homme a eu la bonne idée de permettre à sa famille, mais aussi même à ses amis, de pouvoir bénéficier de ce message. Et la Bible nous dit qu'alors que Pierre était en train d'annoncer le message, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui étaient là présents. J'aurais voulu être là. Amen. Voir la tête déjà de Pierre, et peut-être les disciples qui l'ont accompagné, pour dire, mais c'est pas possible. Il parle en langue. Dieu bâtit du Saint-Esprit, même des Romains. Ça a dû être extraordinaire. Que dire également de Lydie, marchande de pourpre, originaire de Thyatire, et qui était à ce moment-là sur la ville de Philippe, et qui également a été touchée par le message de l'Évangile. Et la Bible nous dit, le jour même, eh bien, suite à l'écoute de l'Évangile, elle-même a été sauvée, elle et sa famille, et baptisée de surcroît, elle et sa famille. Allez, un dernier exemple, c'est le geôlier. Le geôlier qui fut sauvé, lui et sa famille, et également baptisé, lui ainsi que sa famille. Actes chapitre 16, verset 31, ne le cherchez pas. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Une déclaration, mon frère, ma soeur, que tu peux prendre ce matin comme une promesse que Dieu te laisse. C'est une question de foi. Si tu regardes physiquement, eh bien, avec tes yeux humains, eh bien, peut-être les membres de ta famille qui rejettent catégoriquement la personne de Jésus, tu vas peut-être te décourager. Mais si tu t'attaches aux promesses du Seigneur, eh bien, tu verras que tu es capable de te surprendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne nous lassons pas de prier pour les membres de nos familles. Amen. Et peut-être toi, mon frère, ma sœur, qui a de tes enfants, peut-être même petits-enfants, qui ont connu la grâce de Dieu, qui sont même passés par les eaux du baptême, qui ont chanté avec nous, qui ont loué, qui ont adoré le Seigneur, et qui ne sont plus, qui se sont égarés. On n'est pas là pour les juger. Mais je voudrais t'encourager à persévérer, persévérer. Il y a des gens, ils ont persévéré, ils ont même eu le temps de mourir. Et par la suite, eh bien, les enfants pour qui ils priaient se sont convertis. Dieu est fidèle. Vous savez, quand on prie selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut qu'écouter et mieux encore exaucer. Et quand on prie pour le salut de quiconque, je peux te dire que je peux vous dire, excusez-moi, que ses oreilles sont pleinement ouvertes. Regardez ce passage, Jérémie chapitre 31 et le verset 16. Qu'est-ce qu'il est dit? Jérémie 31, verset 16. Et peut-être que quelqu'un doit s'accaparer littéralement de ces deux versets. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Verset 17, le verset suivant. Pierre, le verset suivant, super. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est cette vérité. Accepte de relever le défi que Dieu te lance maintenant. À savoir, es-tu capable de croire à cela? Je peux te dire que tes enfants reviendront dans leur territoire. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Même le roi Pharaon, après la dixième plaie, ne pouvait que... Vous savez qu'avec une seule plaie, Dieu était capable de pouvoir faire fléchir le cœur de Pharaon. Mais lui-même a expliqué eh bien, qu'il a voulu eh bien, ce longtemps pour fortifier la foi du peuple hébreu. Parce que pour sortir du pays d'Égypte, c'est une chose, mais il fallait qu'ils traversent tout le désert et arriver jusqu'aux portes de Canaan. Ils avaient besoin de voir la puissance du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Eh bien, qui est également devenu notre Père Céleste. Aussi, n'ayons de cesse de prier pour les membres de nos familles, car Dieu ne les a pas oubliés. Je voudrais conclure et terminer avec ce quatrième et dernier compromis que Pharaon proposa au peuple d'Israël, un quatrième et dernier compromis qui intervient cette fois-ci après la neuvième plaie que Dieu envoya sur tout le pays d'Égypte, c'est-à-dire lorsqu'il envoya ces fameux ténèbres. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a eu des épaisses ténèbres qui ont recouvert tout le pays d'Égypte, sauf l'endroit où habitait le peuple hébreu. Ça devait être extraordinaire. Au cœur même des ténèbres, il y a la lumière dans des familles. Et au cœur même de ce monde enténébré, il y a la lumière dans toutes les maisons où nous proclamons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu.
Et là encore, nous pouvons peut-être tirer instruction de ce quatrième compromis. En effet, le diable, cette fois-ci, nous propose l'arrangement suivant. On le lit dans Exode chapitre 10 et le verset 24 et 26. Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos offrandes pourront aller avec vous. » Verset 25. Moïse répondit « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes, excusez-moi, que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. » Par contre, il précise au verset 26 « Nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Dis waouh. Il a pris de l'assurance, hein, Moïse. C'était pas le même Moïse qui disait « Mais Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. » Mais plus on avance dans le temps, plus il trouve de l'assurance. Il parle, il est la bouche de Dieu. Il sait, il a vu la gloire de Dieu. Et il va. Et il ne rentre plus dans des négociations, plus dans des compromis avec le diable. Et comprenez ici l'instruction que Dieu veut nous accorder au travers de ce quatrième et dernier compromis. Le diable, cette fois-ci, nous propose l'arrangement suivant, qui consiste à dire, sois chrétien, toi et ta famille, d'accord, mais concernant les affaires de la vie courante, ton travail, tout ce que tu peux faire à côté, sois sans scrupule, fais comme tout le monde. Si tu fais quelques écarts, ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Et vous l'avez compris, il nous faut aussi rejeter un tel compromis.
Amen.
Car Dieu nous demande d'être fidèles en toutes choses, en toutes circonstances, dans les moindres détails de notre vie, frères et sœurs. Vous savez, on n'est pas seulement chrétien que le dimanche matin.
Amen.
Mais le Dieu que nous transportons et qui a fait de notre corps le Saint-Temple, il nous accompagne. Dès cet après-midi, dès demain matin, lorsqu'on rencontre notre patron, lorsqu'on le regarde, qu'on le toise, il ne m'a pas augmenté, hein. Il ne m'a pas augmenté. Lorsqu'on regarde le voisin, ah, et puis on commence ça, on ne le montrera pas, mais tout se passe à l'intérieur. Lorsque dans les affaires, eh bien, on commence à glisser des choses douteuses, ne soyons pas des chrétiens. Excusez-moi l'expression bipolaire sur le plan spirituel. Ils sont d'une certaine façon le dimanche matin, et dans la semaine, c'est complètement une autre personne. On a besoin d'être constant. On a besoin bien d'être sans compromis. Dieu nous exhorte par sa parole. Vous savez que Dieu nous parle même de payer nos impôts dans la parole ? Ben, relisez Romains 13. Il nous demande, texto, de payer nos impôts. Il n'y a pas le monde d'un côté, et puis Dieu voit celui qui a établi les autorités en place. C'est pour ça qu'il nous demande du respect. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des chrétiens, eh bien, qui ne prient même pas pour les autorités et pour les policiers, qui ont une certaine haine contre l'autorité en place. Il y a un problème. Il y a un problème dans votre cœur, il faut le régler. La première chose que Dieu a réglée quand le peuple hébreu est sorti du pays d'Égypte, c'est le problème d'insoumission et d'autorité. Parce qu'à un moment donné, alors chemin faisant, c'est Marie et puis Aaron, les proches de Moïse, ceux qui auraient pu être des soutiens pour Moïse, ils ont eu un problème d'autorité. Dieu s'occupe d'abord de l'insoumission qui peut se trouver dans son église. Et après, il s'occupe, eh bien, deuxièmement, de tout ce qui est impudicité, impureté. Pour entrer dans le pays de Canaan, il faut être entièrement saint. Tu seras saint, car je suis saint, dit Dieu. Il nous parle d'une sanctification qui touche notre corps, notre âme et notre esprit. Et quand je lis Romains 13, il est fait mention de payer nos impôts. Il est fait mention de respecter les autorités établies sur notre pays. Il est fait mention de nous soumettre aux lois en vigueur. Bien sûr, vous n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Parce que quand le moment vient où la loi va à l'encontre directe de notre foi, là il y a un problème. Et là, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il nous faut nous soumettre aux autorités. Nous prions pour le maire. Nous bénissons le maire de notre ville. Que Dieu soit béni. Moi, je bénis le Seigneur pour cet homme, eh bien, qui rend notre ville agréable. C'est ce qui m'a charmé quand je suis arrivé ici. Je revenais de Marseille, peu cher. Quand je je suis arrivé ici, mais c'est magnifique, comment c'est bien entretenu. Prions pour les autorités. Prions pour que eh bien, les autorités et même la police puissent faire son travail, que le mal recule et que le bien, alléluia, puisse prendre de l'ampleur ici, dans cette ville. La Bible nous exhorte à être honnête, à être intègre, à être droit dans nos affaires, à l'égard du prochain, quel qu'il soit. Dieu est dans notre quotidien. La Bible nous dit qu'il y a même certaines personnes qui ont accueilli des anges sans le savoir. Je vous ai déjà donné ce témoignage. Bon, là, je fais un petit écart, j'ouvre et je ferme la parenthèse très rapidement. Cette femme, cette chrétienne qui a donné son cœur à Jésus, une femme bouillante, elle s'appelait Marie-Claude, elle s'appelle toujours Marie-Claude. Et très rapidement, elle a progressé spirituellement parlant. Et cette femme, elle était tellement passionnée, on a parlé de passion tout à l'heure, tellement passionnée. Elle était la seule dans sa chambre universitaire, elle était encore étudiante à l'époque. Seigneur, je veux te voir, je veux te voir.
Amen.
Elle était là, en larmes. Elle sentait la présence de Dieu dans sa chambre. Je veux te voir. Et puis quelqu'un vient l'interrompre dans son culte personnel. Quelqu'un frappe à sa porte. Elle ouvre la porte, elle voit une pauvre mamie et qui sentait. Et qui lui demande, excusez-moi, vous pouvez me donner un verre d'eau? Elle aurait pu dire, mais ça c'est le diable qui a envoyé cette dame pour m'empêcher de persévérer dans la prière. Mais gentiment, eh bien, cette sœur, Marie-Claude, eh bien, a pris ce verre et l'a présenté à cette mamie qui s'est exécutée, a bu ce verre et puis a dit merci, bien sûr. Et Marie-Claude a refermé la porte. Et elle s'est mise à nous voir, prier, Seigneur, je veux te voir. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, tu t'es révélé à tellement d'hommes, même dans la Bible. Je veux te voir. Et la voix du Seigneur qui se fait entendre. Et ma fille, tu viens de me voir. Quand le Seigneur dit, quand vous donnez un verre d'eau, c'est à moi que vous le faites. Une fois, j'ai vu deux personnes, deux chrétiennes. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, tant pis. Il y avait une qui avait une ascendance, une certaine autorité sur l'autre. Elle méprisait, elle avait tendance à mépriser sa soeur jumelle d'ailleurs, qui était un peu plus lente, un peu plus... bon, on va dire qu'elle était essence et sa soeur était diesel. Mais c'était pas évident. Mais la manière qu'elle le traitait, et le Seigneur qui me dit, tu vois, cette fille-là, cette femme, elle agit avec sa soeur comme elle agit avec moi. Elle ne le sait pas, mais c'est à moi qu'elle fait ces choses-là. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les yeux spirituels. Et de comprendre que dans notre quotidien, le Seigneur est avec nous. Et il voit ce que nous faisons, il voit ce que nous disons, il voit nos attitudes, il voit nos comportements. Mais il est à nous. C'est à nous que cela incombe, de pouvoir dire, ah bien, comme Moïse, je termine, comme Moïse l'a dit à Pharaon, verset 26, « Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. » En fait, Dieu désire que de notre vie tout entière, eh bien, il n'y ait aucun arrangement, aucune concession avec le diable.
Amen.
Quand on regardait la vie de Daniel, quand on regardait son travail, eh bien, on n'en trouvait aucun défaut. Il avait une bonne réputation. Il faut qu'on ait une bonne réputation. La Bible dit qu'il faut qu'on ait une bonne conduite parmi les païens. C'est tellement important. Afin de ne pas, par notre comportement, bafouer l'évangile. Nous sommes, eh bien, la Bible dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Dieu compte sur nous. Il a misé sur nous. Et il attend, eh bien, qu'en retour, nous puissions honorer son saint nom et glorifier son nom au travers de notre vie. Faisons en sorte que rien dans nos vies, pas même un ongle, n'appartienne au diable.
Amen.
Et inversement, que le diable ne trouve pas chez nous des choses qui lui appartiennent. Parce que c'est un moyen pour lui de rester chez nous. Il est là, les bras croisés, les pieds aussi croisés, dans votre salon spirituel. Et il ne bouge pas. Vous êtes là, vous lui dites, mais sors, sors, sors. Et lui, il sourit. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il daigne, par pitié, vous dire la raison de sa présence. Il vous dit, mais tu veux que je sors? J'ai des choses qui m'appartiennent chez toi. Et tant qu'elles sont là, je reste. Je peux rester. J'ai un droit. Et Moïse a dit, nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Sachons dire comme Jésus. Il l'a dit, je termine avec cela, Jean chapitre 14, verset 30. Je vais lire ce verset dans la version nouvelle Bible second. Il va dire, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient Il rajoute, il n'a rien en moi qui lui appartienne. Baissons les têtes, fermons les yeux. Il n'a rien en moi qui ne lui appartienne. N'est-ce pas là une parole qui pourrait définir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous concernant la sanctification, concernant cette marche de sainteté? Il s'agit pour nous de faire le nettoyage dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit, afin que nous puissions arriver à dire comme le Seigneur Jésus, il n'a rien en moi qui lui appartienne. Et nous venons de voir quatre compromis que le diable pourrait placer devant notre route. Et peut-être que plusieurs se sont reconnus au travers de ces quatre compromis. Et si tu as pointé du doigt par son Esprit Saint quelque chose qui mérite d'être rectifié dans ton cœur, sois heureux mon frère, ma sœur. Peut-être même toi qui viens pour la première fois. C'est la preuve que Dieu t'aime. Il voudrait aujourd'hui même que tu rectifies le tir. Il voudrait aujourd'hui même que tu trouves le chemin du salut, comme nous l'avons entendu au travers du don spirituel. Le Seigneur te dit, viens à moi. Viens aujourd'hui même, repens-toi. Décide une fois pour toutes de quitter le pays du péché. Décide une fois pour toutes, alléluia, d'être passionné pour Jésus, d'aller le plus loin possible. Décide, alléluia, de ne pas être individuel, même égoïste. Mais pensez aussi à ta famille pour être passionné, alléluia, pour son salut. Décide de dire comme Jésus l'a dit en son temps, il n'y a rien dans ma vie qui appartienne au diable, que tu sois tout entier au Seigneur Jésus. Et je voudrais juste te faire cet appel parce que je crois que le Dieu qui nous annonce, alléluia, tout son conseil, il veut que nous répondions favorablement à son appel. Et peut-être que tu reconnais qu'il y a ce compromis que tu dois arranger, rectifier, ôter, détruire cette alliance, cette concession que tu as pu faire, inconsciemment peut-être, avec l'ennemi de nos âmes. Aujourd'hui même, tu veux détruire ces choses. Alors lève-toi à ta place et Dieu te fera grâce. Et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je voudrais encourager tous ceux et celles, alléluia, qui veulent en finir avec toute forme de compromis. Les affaires qui appartiennent au diable, tu vas les mettre dehors dans le nom de Jésus. Et tu verras que le diable n'aura plus lieu de pouvoir rester là où il y a toute la lumière de Dieu. Car ce qui fait fuir les ténèbres, c'est la lumière de Dieu. Et quand Jésus met en lumière ce qui a besoin d'être rectifié, ce qui a besoin d'être extirpé de ton cœur, alléluia, c'est pour que tu puisses aller de l'avant. C'est pour que tu puisses progresser, pour que tu arrêtes de pleurer, pour que tu arrêtes à bien d'être dans ces luttes. Et dans ces chutes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et je voudrais encore encourager quelqu'un qui est là à batailler sur sa place. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Je parle aux adultes, je parle aux ados, je parle aux jeunes, je parle peut-être même à un enfant qui comprend ce message. Toi qui as besoin d'une victoire, lève-toi à ta place et Dieu te fera grâce. Amen. Dieu est la vérité. Et quand elle est là, elle dérange l'ennemi. Quand elle est là, le Seigneur, alléluia, se tourne vers nous. Et nous sommes, alléluia, favorables pour être accueillis par lui. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. Ce sont tes enfants. Et ils ont entendu ta voix. Tu as dit que tes brebis entendraient ta voix. Et entendre, ce n'est pas seulement écouter des sons, écouter des décibels. Mais Seigneur, Père mon Dieu, plus que cela, c'est recevoir avec douceur ta parole. C'est la recevoir humblement. C'est, Seigneur, Père mon Dieu, pouvoir chercher à la mettre en pratique. Et ils se sont levés parce qu'ils veulent détruire toute alliance, toute concession, toute négociation qu'ils se sont permis d'avoir avec l'ennemi de nos âmes. Seigneur, je te prie dans ta grâce de poser ta bonne main sur leur vie, de détruire en cet instant par le feu de Dieu, Seigneur Père, tout ce qui peut être des compromis dans leur vie au nom de Jésus, afin qu'ils puissent avancer, afin qu'ils puissent progresser avec toi. Seigneur, aujourd'hui même, tu leur fais grâce. Aujourd'hui même, tu les pardonnes, tu les purifies, tu les sanctifies par le sang précieux de Jésus, par le sang précieux de l'agneau que nous avons chanté tout à l'heure. Oh, le sang de Jésus! Merci pour le sang de Jésus. Seigneur, rien, aucun péché ne peut, Seigneur Père, mon Dieu, résister au sang précieux de Jésus qui maintenant coule, alléluia, sur la personne qui aujourd'hui répond, alléluia, à cet appel au nom de Jésus.